Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, une émission un peu spéciale car nous aurons peu de discussions autour de l'Europe, des problèmes de défense ou de géopolitique. Ce qui fait qu'on a été quasiment abandonné par Grégoire Grandbier et Philippe Christel. Mais un sujet de société qui est en train d'envahir depuis des mois notre quotidien, le mariage homosexuel, ou plutôt le fameux mariage pour tous. Encore diront certains, sauf que nous l'aborderons de façon différente, car notre interrogation première, c'est que le mariage homo est-il un leurre ? Derrière ce gadget sociétal de la gauche bobo, ne voit-on pas l'arrivée d'une théorie beaucoup plus dangereuse, la théorie du genre, la destruction des civilisations mise en place par des militants plus que par des chercheurs ? Alors pour en parler, nous recevons une partie de l'équipe du journal Élément, qui vient de sortir un numéro spécial de 96 pages sur cette fameuse théorie du genre. Dans le studio, nous aurons Pascal Essérick, son rédacteur en chef, et nous aurons par téléphone David Lépé et le docteur Gérard Zwang. En deuxième partie, nous n'aurons pas la fameuse chronique d'actualité de Philippe Christel, mais nous avons le plaisir d'avoir Arnaud Guyot-Janin, bien connu des auditeurs pour son livre « Les visages du cinéma, 35 portraits non conformistes » aux éditions Xenia. Arnaud Guyot-Janin qui aura bien sûr le loisir pour intervenir lors de cette première partie. Bonsoir.
Merci. Bonsoir.
Alors, je me tourne vers vous, Pascal Essérick, et vers votre volumineux dossier sur cette fameuse théorie du genre, qui, j'avoue, fait énormément envie, puisque vous avez quand même mis Brigitte Bardot en couverture. Une Brigitte Bardot des années 60. Hein.
La plus belle.
Alors, cette théorie du genre, qui avait légèrement fait débat en France au moment de son intronisation dans les cours de sciences à l'école, mais on avait une impression qu'il concernait simplement les universitaires et l'éducation. Pour commencer, comment définir la théorie du genre ?
Alors, vous avez raison. De quoi parle-t-on avec cette théorie du genre ? Pour faire simple, il s'agit d'une théorie qui dissocie radicalement le genre du sexe biologique. Pour les tenants de cette théorie, l'identité sexuelle dépend de rôles sociaux attribués aux individus par l'éducation ou la culture. L'identité sexuelle est le résultat d'une construction sociale. En fait, cette théorie, on la retrouve désormais d'ailleurs explicitement hein, dans les manuels scolaires destinés aux lycéens de première ES, de première S, de première L, qui donc se réfèrent explicitement à l'idéologie du genre.
Dans les cours de sciences, hein, on est bien d'accord.
Oui, bien sûr. Dans le manuel Hachette, on peut lire, entre guillemets, l'identité sexuelle est la perception subjective que l'on a de son propre sexe et de son orientation sexuelle. Seul le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier masculin ou féminin. On peut en prendre d'autres. Hein. Dans le manuel Nathan, il est marqué explicitement « Les sociétés forgent des modèles et des normes associées au féminin et au masculin. Ces attitudes sont tellement intériorisées que nous reproduisons les stéréotypes sans nous en rendre compte. »
Alors, au départ, même si la théorie du genre nous vient des États-Unis, son origine est française et nous vient de philosophes comme Foucault ou Derrida. Et ce sont les féministes américaines qui vont la développer.
Alors, pas tout à fait. Vous avez tout cité, mais pas dans le monde.
Allez-y.
En fait, en réalité, la notion de genre est apparue dans les années 50 dans le cadre d'études cliniques sur des pathologies comme l'hermaphrodisme. Et en fait, cette notion a été reprise par une militante et une sociologue britannique qui s'appelle Anne Oakley dans les années 70, qui a eu un petit succès dans ce cercle un petit peu militant et féministe. Et puis après, cette notion de genre s'est diffusée dans les mouvements féministes, mais aussi dans les grandes universités américaines, sous l'influence, et là vous avez raison, d'auteurs de ce qu'on a appelé la French Theory, c'est-à-dire Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Mais c'est vraiment dans les années 90, avec Judith Butler, qui là va populariser dans le monde entier, grâce à son livre « Troubles dans le genre » pour un féminisme de la subversion, qui va vraiment populariser le terme. Son livre aura des centaines de millions de... Oui, je crois qu'une centaine de millions de... elle sera diffusée à une centaine de millions d'exemplaires dans le monde entier et aura une vraie diffusion et un vrai écho.
Alors, on reviendra sur Judith Butler. Alors, on pourrait parler effectivement d'une obscure théorie pour jeunes bobos branchés new-yorkais dans les universités, mais le genre, il va être rapidement adopté dans les instances internationales. Ça, c'est assez incroyable. Et rapidement.
Oui, dès 1995, au sommet de Pékin sur la femme qui avait été organisée par l'ONU, le mot gender va apparaître pour la première fois dans les documents officiels. Et alors là, en cascade, le Parlement européen va très vite l'adopter. Et en 2011, le Conseil de l'Europe donne une définition. Une définition officielle. Le genre, ce sont les rôles, les comportements, les activités, les attributions sociales, socialement construits, qu'une société donnée considère comme appropriées pour les femmes et les hommes. Et donc c'est même l'article 3 de la convention sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et de là découle en cascade son adoption dans les manuels scolaires dont nous avons déjà parlé.
Alors, vous avez parlé de cette figure qui est Judith Butler. C'est une philosophe, militante féministe, gay. Je crois qu'elle est lesbienne.
Oui, bien sûr, oui.
Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Elle, philosophe, ok, mais comment est-elle arrivée toute seule avec son livre?
Elle n'est pas arrivée toute seule.
C'est une sorte de gourou. C'est devenu un peu une sorte de gourou aujourd'hui.
Oui, mais enfin, elle s'appuie, comme je l'ai dit, sur des constructions intellectuelles et théoriques qui grenouillent, si j'ose dire, depuis les années 70. Donc, qui est Judith Butler? C'est une philosophe américaine qui est née en 1956 à Cleveland. Elle se définit comme juive antisioniste et elle a été nourrie au lait, si j'ose dire. Du féminisme français, de la French Theory. Donc, elle ne sort pas de nulle part. Donc, de Michel Foucault, elle a appris que le genre sexuel était une performance sociale apprise, répétée, exécutée. Donc, inutile de dire que cette théorie n'a pas franchement convaincu les chercheurs en neurobiologie, les chercheurs en génétique, les chercheurs en psychologie cognitive, n'a pas convaincu, je crois qu'enfin on va l'écouter, n'a pas convaincu Gérard Zang.
Non.
Et elle a eu à sa suite en France. Elle a eu à sa suite en France de nombreux imitateurs, commentateurs, un petit peu, enfin comme Thomas Laqueur, qui est un des vulgarisateurs en France de cette théorie, qui va jusqu'à prétendre que l'anatomie elle-même ne constate absolument pas qu'il y a deux sexes, mais que l'anatomie construit cette idée. Et donc, ça va jusqu'à un autre épigone de Judith Butler en France, c'est Éric Fassin qui dit, et d'ailleurs, sa définition permet de bien comprendre ce qu'est la théorie du genre. Il dit, on ne naît pas femme ou homme, c'est le point de départ de toute réflexion sur le genre.
Arnaud Guillaume-Jadin.
Oui, je voulais faire une petite parenthèse, parce qu'on parlait justement de la French Theory. La French Theory divulguée par Foucault, Deleuze, Guattari, et ce qu'on a appelé les philosophes de la déconstruction, ont ce paradoxe que précisément, puisqu'ils mettent en avant que les sexes féminins et masculins sont différenciés et que cette différence ne résulterait que d'une construction sociale, il est amusant de constater que ce sont les philosophes de la déconstruction qui en quelque sorte déconstruisent eux-mêmes le processus de sexualisation homme-femme dans la société qui paraît pourtant assez naturel et assez conforme à l'anthropologie depuis le début de l'humanité, si j'ose dire.
Alors, dans cette théoricienne, enfin, elle dit clairement qu'au départ, c'est quand même une sorte de révélation quand elle lit Simone de Beauvoir, c'est on ne naît pas femme, on le devient.
Et attention, donc, elle s'appuie, mais elle le dépasse. Hein, s'appuie
ouais, sur, et donc, elle théorise ça pour tout le monde.
Oui, mais enfin, elle s'appuie sur Simone de Beauvoir pour le dépasser totalement, parce que dans la phrase de Simone de Beauvoir, il y a quand même on devient femme, tandis que pour Judith Butler, c'est on devient neutre.
On devient neutre.
Donc,
alors
c'est
oui,
pas pareil.
Effectivement, pour certains, cette théorie serait une façon de normaliser l'homosexualité et de combattre le patriarcat. Mm-hmm. Mais effectivement, elle va plus loin. C'est bel et bien une liquidation des sexes. C'est une disparition totale.
Oui. Enfin, il faut faire attention. L'idéologie du genre, contrairement à ce que peut-être quelques-uns pensent, n'est pas qu'une doctrine qui voudrait donner à légitimer l'homosexualité contre l'hétérosexualité vue comme normatif. Enfin, voudrait pas l'idéologie du genre, c'est pas l'homosexualité contre l'hétérosexualité.
Ça, c'est l'idéologie, un peu la caricature.
Voilà, ça c'est
donné.
Un peu la caricature. L'idéologie du genre, sa caractéristique, enfin me semble-t-il essentielle, fondamentale, c'est la négation des sexes, c'est-à-dire la négation d'une identité fondée sur le sexe. Et donc, quand vous dites, enfin, pour eux, il s'agit plus de se libérer du patriarcat, hein, mais de liquider la différence sexuelle. Donc, ça va, enfin, bon, le procédé est un peu facile.
Il ne s'agit pas de jouer les femmes contre les hommes et de dire qu'il n'y a plus de femmes et plus d'hommes, voilà, mais qu'il y a un genre qui prédomine sur les
exactement.
Sexes.
Monique Wittig, par exemple, dans son livre sur la pensée straight, alors, c'est vrai que le procédé est peut-être un peu facile parce que Monique Wittig, c'est vraiment, je ne vais pas dire extrémiste, mais elle va jusqu'au bout du...
C'est du lourd, quoi.
Voilà, si vous voulez. Elle va jusqu'à écrire qu'il faut détruire, enfin pour que, comme les auditeurs, je pense qu'on comprendront, jusqu'à détruire politiquement, philosophiquement et symboliquement les catégories d'hommes et de femmes, car de telles catégories sont intrinsèquement normatives et aliénantes. Et pour elle, il n'y a pas de sexe. C'est l'oppression qui crée le sexe, et non l'inverse. Et pour nous, c'est-à-dire pour les théoriciens du genre, pour nous, il ne peut plus y avoir de femmes ni d'hommes. En tant que catégorie de pensée et de langage, ils doivent disparaître politiquement, économiquement, idéologiquement. Donc vous voyez que Alain de Benoît, dans l'article de présentation, écrit que c'est un nouveau pari de Pascal, finalement. C'est ignorons les différences, on finira bien par les faire disparaître.
Oui, parce que le fait de dire l'identité sexuelle n'est qu'une construction sociale, hein, ça permet de remettre en cause effectivement le masculin et le féminin. En gros, pour résumer et caricaturer aux auditeurs qui, comme moi, n'ont pas forcément très bien compris ces théories, en gros, on pourrait élever une fille en garçon et elle deviendrait un garçon naturellement.
Voilà, c'est le présupposé de des théoriciens du genre poussés, poussés à son but ultime, puisque c'est si l'on écoute Magali De Haas, qui est l'ancienne présidente d'Oser le féminisme, qui est aujourd'hui conseillère de
Najat
Vallaud-Belkacem,
qui avait eu le bon goût de présider l'association Oser le clito, si vous me pardonnez l'expression.
Ah oui,
à l'antenne.
Vrai.
Il faut quand même le rappeler. Cela a quand même parfois trop, c'est trop bon pour le dire.
Voilà, c'est-à-dire que pousser jusqu'à son bout, voilà.
Oui. Si
alors. Non, mais sur cette question, le psychanalyste Michel Schneider, qu'il faut lire avec attention, c'est lui qui a finalement le mieux répondu. C'est-à-dire qu'il l'a répondu de manière la plus simple, la plus claire, pour un psychanalyste. On ne choisit pas son sexe et il n'y en a que deux. C'est d'ailleurs, souvent il y a un abus de langage qui est fait sur l'homosexualité comme troisième sexe. En fait, c'est un abus de langage, puisque les gays et les lesbiennes sont des hommes et des femmes comme les autres du point de vue biologique, en fait du sexe biologique. Ce qui les distingue, ce sont leurs préférences sexuelles, qui sont finalement naturelles, en ce sens qu'elles ont toujours été observées sous toutes les latitudes et toutes les époques. La dénonciation de l'homosexualité comme une violation de la loi naturelle, est une absurdité. Enfin, là, je vais parler sous le contrôle de Gérard Zang, qui lui donne des chiffres.
On
l'aura tout à l'heure. Touche pas à mon sexe. Bah, il indique que les chiffres sont à peu près constants depuis qu'on sait faire des statistiques, c'est-à-dire un peu moins de mémoire. C'est un peu moins de 5% des hommes et un peu moins de 2% des femmes.
Alors, c'est énorme parce qu'il n'y a pas besoin de caricaturer ou de grossir leurs traits parce qu'ils ont parfois des propos. Quand on entend avec cette théorie, c'est la destruction du modèle hétérosexuel qui ne serait plus la norme. Ça, c'est le sociologue français Éric Fassin qui a une formule qui est assez terrible là-dessus.
Oui. C'est Alain c'est dans son article de présentation, hein, Alain Benoît qui le met en exergue sur Éric Fassin, effectivement, dit textuellement que l'objet des gender studies est de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale.
Ne serait plus la norme, quoi.
Ah non, oui, c'est sa phrase exacte.
C'est légèrement différent.
Ne serait plus normal, voilà. Encore une fois, mais je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, l'idée majeure de cette théorie, c'est que chez l'homme, rien n'est donné. Tout est construit. Tout est modifiable en fonction de ses désirs. Donc toute orientation sexuelle, toute tendance pulsionnelle singulière peut se poser en norme et alimenter une revendication, quoi, une revendication qui en vise à en faire un modèle social reconnu. Et là, on tombe sur effectivement le mariage homosexuel, c'est-à-dire que on est là dans une tendance sexuelle peut être une source de droit.
Alors, oui, Arnaud Guillaume-Jeannin.
Oui, Éric Zemmour a eu cette bonne formule dans le Figaro magazine de la semaine dernière, quand il disait ou écrivait, en le paraphrasant, que en fait les théoriciens du genre voulaient abolir la norme pour édifier un monde qui n'en est plus. Et en fait, véritablement, on va assister, je pense, dans les mois qui viennent, avec notamment tous les débats autour de l'homosexualité, du mariage homo, de l'adoption des couples homosexuels qui pourront adopter un enfant naturellement. On aura dans le livret de famille parents A, parent B, et non plus père ou mère. Donc, ce sera l'abolition de la norme anthropologique dominante depuis le début de l'humanité qui sera abolie au profit d'une norme indifférenciée qui ne dira pas son nom et qui sera considérée, elle, comme étant normative. Une norme qui ne serait pas normative, en fait.
J'ajouterai, enfin, pour information, que c'est une parent 1, parent 2, c'est déjà le cas dans le droit britannique et américain.
Ouais. Ouais.
Alors, donc on est juste un petit peu en retard. Hein.
Alors je suis sûr que certains à gauche vont considérer que venant de Radio Courtoisie et de la revue Élément, alors nous avons forcément tort, étant d'affreux machos hétéros, homophobes, voulant remettre les femmes dans les cuisines pour certains, sauf que même chez les féministes, le débat est violent, car la théorie du genre, c'est quand même la suppression du féminin. Et on s'aperçoit qu'une bonne partie des féministes n'est pas du tout d'accord avec cette théorie.
Ah bah, je pense même que c'est la partie la plus intéressante des critiques, parce que vous avez entièrement raison d'appuyer sur ce point. Parce que cette critique à l'intérieur du mouvement féministe est portée par des auteurs comme Geneviève Fraisse, comme Sylvia Nagasinski, dont j'encourage les auditeurs de Radio Courtoisie vraiment à lire les écrits, en dépassant peut-être le fait qu'elle partage la vie avec Lionel Jospin, qui est ancien Premier ministre socialiste,
mais vraiment... et qui a eu beaucoup de réserves il y a quelques jours sur, sur le mariage, pour tous et le mariage homosexuel. Et je pense que.
Et la meilleure part de Lionel Jospin, c'est Sylvia Nagasinski.
Voilà. Alors là.
C'est un peu comme Charles Millon et Chantal Millon d'elle seule.
Voilà, exactement. Oui, ce qu'elle écrit est souvent remarquable et on aimerait qu'elle exerce une influence plus importante sur le Parti Socialiste sur cette question. Malheureusement, je crains que cette influence ne soit exercée par Magali de Haas, qui me semble plus en cours auprès du gouvernement, hélas.
On peut peut-être dire très rapidement, d'ailleurs, Élément avait consacré il y a une dizaine d'années un numéro spécial au retour des femmes, qu'il y a deux en fait formes de féminisme aujourd'hui qui se disputent, qui s'opposent, un féminisme différentialiste, paritariste, qui reconnaît la femme comme étant distincte de l'homme et qui revendique des droits à l'égalité en matière de salaire ou en matière de droits sociaux, mais qui montre que le droit du point de vue de la nature doit fixer la distinction entre les sexes. Ça, c'est un féminisme donc différentialiste. Et puis le féminisme universaliste d'une Elisabeth Banater, par exemple, qui, elle, considère que l'homme et la femme sont intrinsèquement liés, mais non seulement sont liés, mais n'ont pas de fondamental de différence de nature, et que les droits qui sont les leurs peuvent être communiés ou idéologiquement liés l'un et l'autre à partir du moment où ce sont des êtres humains qui sont dépossédés de leurs appartenances culturelles, spirituelles, familiales, biologiques, etc., etc. Donc un féminisme, je dirais, humaniste qui ne fait pas abstraction des appartenances communautaires, et un féminisme égalitariste et universaliste qui fait abstraction de cette distinction sexuelle, de cette distinction d'appartenance communautaire multiple.
Vous avez entièrement raison, Arnaud. À cet égard, je trouve que le constat qui a été fait par Camille Froidevaux-Métairy dit beaucoup de choses, en fait, sur ce néo-féminisme. Bon, je l'appelle néo-féminisme qui me semble puritain. C'est qu'elle écrit que le genre a été le concept opératoire qui a permis de dissocier les femmes de leur nature biologique et donc de les définir comme des sujets à l'égal des hommes. Bien. Mais dans ce processus, écrit Camille Froidevaux-Métairy, dans ce processus, on a perdu le féminin de la femme. C'est tout en fait ce que vous disiez. C'est-à-dire tout ce qui renvoie au corps des femmes. La relation homme-femme, amoureuse et sexuelle, la question de la maternité, celle du rapport des femmes à leur corps, notamment via le souci esthétique. Toutes ces dimensions ont été disqualifiées au prétexte qu'elles fondaient la domination masculine. Donc vous voyez que il y a à l'intérieur du mouvement, enfin de cette, enfin des intellectuels qui réfléchissent sur le féminisme, de vraiment des débats de fond, des débats importants.
Arnaud Guillaume-Jeanin.
Oui, entendons-nous. Alain de Benoît le souligne d'ailleurs dans ses différents articles. Il est évident qu'il y a toujours une part de féminité dans l'homme et une part de masculinité dans la femme, et qu'il ne s'agit absolument pas de nier la complémentarité qui peut exister au sein d'une unité masculine ou au sein d'une unité féminine. Le problème, c'est quand les polarités s'inversent ou se renversent, c'est qu'il y a plus de masculinité dans la femme et plus de féminité dans l'homme. Et alors là, il y a effectivement un danger d'indifférenciation, de mélange, de non-repères pour l'homme et de non-repères pour la femme, et tout ça peut être en plus après juridicisé, ce qui va être le cas avec le mariage homo et la naissance et l'adoption par les couples homosexuels d'enfants.
Oui, bien sûr.
C'est cette espèce d'homogénéisation du corps sexuel, du corps social, au profit d'une ressemblance, au profit d'une identité qui ne serait plus une identité différente, mais d'une identité qui serait même. C'est-à-dire on remplace l'altérité par la mêmeté, le droit à la différence est remplacée par le devoir de ressemblance. Les individus ne sont plus sexués, ils sont asexués. Ils ne sont plus déterminés par des fonctions qui sont les leurs, mais ils sont indéterminés en fonction d'une humanité générale à laquelle ils appartiennent, dépossédés de leurs appartenances multiples, comme je le disais à l'instant. Donc on voudrait que les partisans si promptes de la différence et de la diversité en général soient les premiers à garantir et à défendre cette diversité du monde vivant, c'est-à-dire défendre tout simplement les différences ethnoculturelles, les différences sexuelles, les différences anthropologiques, les différences civilisationnelles. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a souvent des contrastes et des contradictions, puisque ce sont les mêmes qui défendent, comme le dit Alain Benoît, le métissage, qui défendent également la diversité au nom d'un mélangisme qui apparaît comme totalement standardisateur, uniformisant et destructeur des identités.
Bien sûr.
Alors, il est assez révélateur, par exemple, de voir qu'une Judith Butler, pour préparer cette émission, j'ai vu un reportage qui un portrait d'elle sur Arte, et quand un journaliste lui posait la question sur le mariage homo en France, donc sur la possibilité d'un mariage entre deux hommes ou deux femmes, Judith Butler répondra « Pourquoi deux et pourquoi pas plus ?» Est-ce que là, on n'est pas en train de voir exactement les deux, c'est-à-dire le mariage d'un côté et la théorie du genre qui sont en train de former un seul bloc?
C'est exactement ce que, finalement, Arnaud a répondu par anticipation à ce que vous dites. Il n'y a vraiment rien d'autre à rajouter, parce que
le couple à trois existe aujourd'hui dans d'autres pays européens. Il y a un terme qui est utilisé. Il y a un néologisme qui est utilisé.
Le terme, enfin, c'est le trouble.
Je sais pas où. Voilà, le trouple. C'est un couple à trois.
Non, mais à trois ou un peu plus même. On peut, enfin, au Canada, il y a une expérience qui est menée. Ça a été dans un État où c'est au Canada où j'ai peur de dire une bêtise, mais je sais qu'il y a eu une expérience. Je crois pas que ce soit en Europe. Hein. En Europe, il n'y a pas encore eu.
Alors, ce serait peut-être au dehors des frontières de l'Europe.
Ouais, je pense que c'est au Canada.
C'est que dans certains pays, à partir de deux, c'est une manifestation. Donc, je ne pas qu'à partir de trois, c'est une macro.
C'est un couple. Et donc, non, à partir de trois, c'est pas un couple, c'est un trouble.
Un trouble.
Et d'ailleurs, on voit déjà dans plusieurs magazines militants des reportages des sociologues qui travaillent sur le sujet. C'est pas autant la grande presse a mis un peu les médias ont mis un peu un mouchoir sur ce terme et un mouchoir sur ces expériences, autant les journaux militants s'en font l'écho. Vraiment, il n'y a qu'à les ouvrir, ils s'en font l'écho tous les jours. Hein. Je voudrais revenir sur l'accusation.
Oui, allez-y.
Patrick PL, sur l'accusation de machisme. Tout simplement parce que il n'y a rien, je voudrais le répéter, il n'y a rien dans la différence sexuelle qui place l'un des deux sexes au-dessus de l'autre, en fait. Les sexes, simplement, ne sont pas interchangeables. Parler de valeurs masculines ou féminines, c'est pas une assignation, c'est un constat. Donc voilà, je voulais faire cette mise au point.
Le problème, c'est qu'elle est importante. On vit dans un monde où même ce que vient de dire Pascal Estrick est jugé macho. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on légitime la différence sexuelle et où on ne place pas une supériorité ou une infériorité d'un sexe par rapport à un autre, on est déjà considéré comme un macho, c'est-à-dire comme voulant instituer une supériorité de valeur de certains hommes par rapport à la femme.
C'est la fameuse complémentarité. Il y a un mot qui est honni chez tous ces théoriciens, c'est la complémentarité. Tout à l'heure, ça m'amusait quand Arnaud a cité ce terme, parce que pour faire fuir le troupeau de féministes, c'est la complémentarité qui, voilà, il faut parler de complémentarité, et là, vous avez droit à des manifestations.
Cela dit, ce qui est vrai aussi, vous savez, c'est comme ce que disait Alain à propos de la droite et de la gauche, quand un homme politique me pose la question de savoir si tel ou tel homme est de droite ou de gauche, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est la personne qui me pose la question est de droite. C'est vrai que l'insistance sur la différence dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est perçue déjà comme une discrimination négative à l'endroit de la personne qui s'affirme comme telle. Et on a beaucoup de mal à expliquer que la différence n'est pas l'exclusion, mais qu'il y a des différences d'inclusion, justement.
Oui. Vous en parliez tout à l'heure, quand sur d'autres plans, la différence est au contraire louée, est au contraire magnifiée, et donc il y a une... Enfin, il y a vraiment une incompréhension devant, j'allais dire de poids de mesure, mais c'est quand même quelque chose qui doit interroger, ces théoriciens.
Le droit à la différence n'a jamais autant reculé que depuis que le devoir de ressemblance est assigné dans les sociétés occidentales comme la norme ultime.
Alors, merci à vous. On va faire juste une petite pause. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et on va continuer sur la théorie du genre. On va avoir tout à l'heure David Lépé qui, lui, s'est intéressé un peu à des sortes du Indiana Jones ethnologique féminine. C'est assez incroyable. Et on aura Gérard Zhuang pour la partie scientifique. On fait juste une pause et vous retrouvez tout de suite les chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie. De retour dans les chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie, le sujet de ce soir, la théorie du genre, où le mariage pour tous serait-il un leurre, avec autour de moi Pascal Essérick, rédacteur en chef de la revue Éléments, qui vient de sortir un numéro de 96 pages sur le sujet, Arnaud Guillaume-Janin qui pourra intervenir comme dans cette première partie, même si nous le retrouverons d'ici peu pour son livre Le visage du cinéma. Pascal Essérick, nous allons avoir au téléphone David Lépé qui a fait un article que j'ai trouvé un peu trop court, qui à mon avis doit être passionnant. Mais j'avais une dernière question pour clore cette première partie. On s'est aperçu, enfin, avant de passer effectivement à ce sujet-là, la Norvège, qui a été un peu plus rapide que nous sur ces théories, elle est en train de revenir en arrière et en arrière toute sur la théorie du genre.
Oui, oui. Et en fait, bien évidemment, c'est comme d'habitude, c'est un trublion, c'est un saltimbanque qui a fait tout exploser. Il s'appelle Harald Eia et il a diffusé donc en 2010 à la télévision norvégienne un documentaire qui mettait en lumière finalement le caractère, la portée non scientifique, non scientifique des postulats de base de la théorie du genre. Et peut-être 6 mois et après un énorme scandale, après la diffusion de ce documentaire, une grande discussion, un débat important. L'Institut gouvernemental norvégien pour les études de genre a cessé de recevoir toutes les subventions que lui accordait donc le gouvernement norvégien. C'était quand même 7 millions d'euros. Et donc on voit par là que c'est aussi la France a reçu en retard les théories du genre et elle les adopte en retard alors que les autres sont en train de se dégager de ce néo-créationnisme
Pour la Norvège.
Pour la Norvège.
Alors, nous allons avoir au téléphone David Lépé, m'entendez-vous ?
Oui, je vous entends.
Bonsoir et merci de répondre en direct sur Radio Courtoisie.
Bonsoir, merci à vous.
Alors, pour la revue Éléments, vous avez écrit un article croustillant et drôle sur la théorie du genre, car vous nous éclairez sur les travaux pratiques et pseudo-scientifiques des militants de la théorie du genre. En résumé, il fallait trouver dans de lointaines civilisations autres que la nôtre des exemples prouvant qu'une autre forme de modèle pouvait exister. Et nos militants vont se transformer en Indiana Jones, anthropologue, pour servir leur cause. Et pour commencer, ils vont trouver dans Marx et Engels ce qu'ils cherchent.
Oui, exactement. Ce qu'il faut bien se rendre compte, ces théories qui ont l'air très spéculatives parce que tellement éloignées de la réalité, c'est d'ailleurs ce qu'on leur reproche, elles ne sont pas là uniquement pour la beauté de la spéculation et uniquement pour justifier des subventions universitaires. Le but, c'est avant tout un but militant, c'est-à-dire un but lié à la pratique, du militantisme. Et cette pratique, évidemment, c'est changer les rapports entre les sexes, changer les rapports sociétaux, et il faut donc d'une part que cette théorie débouche sur une pratique et d'autre part pour qu'elle soit crédible qu'elle se fonde sur une pratique. Alors évidemment comme on a parfois de la peine à voir tant il est vrai que ces théories farfelues ne correspondent pas à la réalité que nous connaissons, il est important de les appuyer sur des exemples réels. Alors ces exemples évidemment ce ne sont pas ceux que nous vivons mais ce sont d'autres exemples qui peuvent exister ou ailleurs dans l'espace ou ailleurs dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura une démarche, comme je l'explique dans l'article, une démarche qu'on pourrait dire généalogique ou historique, voire préhistorique, c'est-à-dire imaginer ou trouver un peuple ancien qui aurait vécu selon d'autres modalités, ou alors anthropologique, ethnologique, ce qui est plus difficile, trouver un peuple existant réellement aujourd'hui, malgré la mondialisation, malgré l'unification du monde, et qui est vraiment des mœurs complètement différentes.
Alors certaines vont aller étudier dans des tribus lointaines. Que vont-elles trouver? Comment leurs théories vont être-elles perçues par les anthropologues classiques?
Alors, les anthropologues classiques, c'est difficile à dire. On a effectivement commencé à Marx et Engels, et là, je précise tout de suite que Marx et Engels, qui sont deux philosophes de grand mérite et que je n'ai surtout pas envie de les classer dans les théories du genre, d'une part parce qu'ils en sont antérieurs, mais d'autre part parce qu'évidemment ils valent mieux que ça, ils sont au-delà de ça, ont pu être récupérés au même titre, je dirais, que tous les penseurs critiques du patriarcat. Or, la critique de la critique du patriarcat à la théorie du genre, il y a quand même un sacré pas que eux vont franchir allègrement en interprétant toujours la pensée d'hier en fonction des critères, des modes du temps. Mais effectivement, Marx et surtout Engels, à travers son ouvrage sur la critique de la propriété et de la famille, va poser les bases très importantes dans le marxisme d'une théorie selon laquelle il y aurait eu un matriarcat originel, en fonction de quoi tout se serait dégradé par la suite avec l'arrivée de la propriété privée, avec cette association matriarcat originel paradisiaque égale situation pré-capitaliste égalitaire harmonieuse et idyllique, et ensuite l'arrivée du patriarcat, c'est le capitalisme, la propriété privée et la décadence sur tous les plans avec les inégalités qui s'en suivent. Jusque là, évidemment, il n'y a pas de quoi remettre en cause beaucoup plus fondamentalement que ça, le rapport entre le genre et le sexe, mais beaucoup de théoriciens modernes, c'est-à-dire surtout à partir des années 70, vous avez parlé sans doute de Judith Butler ou d'autres, oui, vont s'appuyer là-dessus pour les remettre en cause en disant si cela est vrai, alors il est possible de vivre autrement, puisque le grand principe de ces théoriciens du genre, comme de tous les culturalistes en général, ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont prouvé que quelque chose était culturel et non pas naturel, le combat est gagné. Sous-entendu, si ces différences entre les sexes ne viennent pas de la biologie et du sexe biologique, mais de la culture, alors ça veut dire qu'on peut les remettre en cause. La question de savoir s'il est souhaitable ou non de le faire, s'il est possible socialement ou non de le faire, ne les intéresse pas beaucoup.
Alors, vous parlez d'une... Alors, il y a une féministe ethnologique qui s'appelle Alexandra Kollontai. Vous avez un mot sur cette nouvelle prêtresse ?
Non, pas nouvelle, mais...
Non, enfin nouvelle, je veux dire, à ce moment-là, c'est dans les années 20 qu'elle va commencer à faire des conférences sur le sujet.
Excusez-moi, je sais pas, j'ai pas compris de qui vous parliez.
De Alexandra Kollontai, je sais pas comment on le prononce exactement.
Ah oui, Kollontai, oui. Ah oui, bon, mais ça, là aussi, c'est une auteure intéressante. Oui. Là, on en a parlé sous ce plan-là, mais c'est quelqu'un que j'admire, qui est une grande syndicaliste, qui est une féministe aussi, je dirais, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire dans le cadre de la lutte contre les inégalités salariales et de droits, qui est effectivement une politicienne pionnière dans son domaine, mais qui effectivement, que quelque part, avec l'histoire, s'est laissé dépasser par sa théorie et a aussi fait une généalogie de la condition féminine, une généalogie des sociétés en évoquant notamment la manière dont les femmes auraient été à la base de toutes les innovations de l'histoire humaine, depuis la découverte du feu jusqu'à l'invention de l'agriculture, croyance qu'elle partage d'ailleurs avec Simone de Beauvoir, en passant par le passage à la station bipède, et tout ça argumenté de manière assez intelligente, sophistique diront certains, mais ça se lit assez facilement, c'est assez amusant. Ça retire pas le mérite de cet auteur, mais dès qu'elle s'attaque à ça, évidemment, on rentre dans l'idéologie, oui, plus que dans la généalogie scientifique.
Oui, je voudrais citer
Pascal Essérique.
Oui, je voudrais citer parce que David Lépée cite donc Alexandra Kollontai, cite la situation de la femme dans le communisme primitif, et donc elle écrit dans les situations où notre ancêtre à quatre pattes devait se défendre contre les attaques ennemies, la femme apprit à se protéger d'un seul bras, tandis que de l'autre, elle tenait fermement son petit contre elle, qui s'agrippait à son cou. Elle ne put cependant réaliser cette prouesse qu'en se redressant à demi, ce qui développa par ailleurs la masse de son cerveau.
Voilà, il faut ajouter à la phrase suivante que je n'ai pas citée, et alors je ne suis pas assez connaisseur pour savoir si c'est valide sur le plan scientifique, mais c'est que la position bipède, c'est ça qui est à la source de la douleur de l'enfantement chez la femme humaine, en comparaison avec la guenon, par exemple, qui, en étant restée sur ses quatre pattes, enfante sans douleur. Donc à vérifier, parce que les sciences naturelles ne sont pas mon domaine, mais disons, il y aurait une espèce de néo-primitivisme digne de la condamnation du péché originel.
Alors, vous citez aussi Margaret Mead, qui, elle, va aller faire quasiment des enquêtes en Océanie sur certains peuples.
Oui, oui. Alors, c'est exactement ça. Et ça, quelque part, je dirais que même si on en rit, elle a plus de mérite parce que c'est facile d'inventer, comme l'ont fait certains, comme l'ont fait Margaret French, par exemple, imaginer un passé mythique, plusieurs millions d'années en arrière, en Mésopotamie. C'est beaucoup plus difficile de trouver un peuple existant, hic et nunc, et de voir comment ils, alors qu'ils fonctionnent différemment. C'est la spécialité des ethnologues, mais parfois ils vont de mauvaise surprise en mauvaise surprise. C'est aussi ce qui est arrivé à Margaret Mead, parce que finalement, son livre aujourd'hui ne peut plus être pris au sérieux, parce qu'on sait, grâce à des recherches ultérieures, que les indigènes d'Océanie qui se sont prêtés à ces recherches l'ont un petit peu, se sont un petit peu amusés avec elle, ce qui fait que ces observations n'ont pas beaucoup de valeur scientifique. Mais elle a étudié trois peuples dont je vous épargne les noms parce que je ne serais pas sûr de les prononcer juste. Et alors c'est vraiment magnifique comme une fable, tellement tout ça est bien construit, puisqu'on a trois peuples vraiment distincts. Il y en a où ce sont les valeurs qu'on appellerait chez nous masculines ou viriles qui dominent. Un autre où c'est au contraire les valeurs féminines. Donc ce qu'on appelle chez nous les valeurs féminines et qu'elle conteste, mais qu'on appelle comme ça pour la commodité du discours, c'est-à-dire la douceur, la compréhension, la pacification, ce genre de choses.
Les arapèches, c'est ça, David Lépé.
Voilà, oui.
Les arapèches.
Voilà, oui.
Les premiers, c'était les Mundugumor.
Voilà, Mundugumor, Arapèche et les
Chambouli.
Très bien, vous mettez les mots de la bouche. Et le troisième, justement, il est un peu comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a une distinction de genre, comme on dirait, sauf que cette distinction de genre est inversée, ce qui sert son discours, parce qu'on se dit, si le genre est inversable, c'est que le genre est une construction culturelle, donc qu'on peut l'inverser, nous aussi, ou l'abolir, ou le changer comme on veut, et que le seul critère qui doit nous faire décider de ce changement, c'est de voir si ces peuples réellement existants vivent mieux. Et la réponse qui est sous-entendue, c'est oui, tout ça est très harmonieux, et donc faisons cet effort-là, en dépit de siècles et de millénaires de déterminisme et de conditionnement. On se retrouve toujours dans ces théories un petit peu totalisante, voire totalitaire, de l'humanité comme une page blanche sur laquelle on pourrait construire à peu près ce qu'on veut, et où finalement tout est dans la nature, ce qui n'appartient pas à la nature peut être changé, et où l'histoire n'a aucun poids. Et je pense que ce que nous pensons, vous en demanderez l'avis de Pascal Esric là-dessus, mais c'est que même si c'est vrai, et ça Alain de Benoît le dit bien dans le dossier en disant il ne s'agit pas de nier qu'il y a quelque chose qui s'appelle le genre, mais même si c'est vrai, ça ne prouve encore rien, et surtout ça ne prouve pas au niveau de la praxis, ça ne prouve pas la légitimité, l'utilité ou le bienfait qui résulterait d'un changement radical de ça, parce que l'histoire a aussi un poids, qui n'est certes pas le poids de la biologie, mais qui est quand même très important.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, dans votre conclusion, vous faites un parallèle de ces intellectuels avec les philosophes du 18e et la figure du bon sauvage.
Oui, c'est toujours l'autre qu'on idéalise. Ce qui était assez drôle avec les philosophes du 18e, de Diderot à Bougainville, c'est que finalement cet autre, on le regardait toujours de loin. C'était aussi le cas d'un certain tiers-mondisme de gauche bourgeoise à un moment donné, c'est-à-dire d'idéaliser, de parer l'autre de tous les vertus, en se gardant bien d'en faire partie, parce qu'on tenait quand même à nos propres mœurs, à notre confort moderne, à nos préjugés, comme ils le disaient eux-mêmes, et il est évident que le bon sauvage pour le philosophe mondain du 18e était tellement autre qu'il pouvait faire l'éloge sans risque qu'on lui demande de se joindre à ses tribus et de s'habiller avec des peaux de banane. Donc il y a un petit peu ça, on voit des mouvements qui se développent aujourd'hui, il y a un petit mouvement, je vais leur faire plaisir en parlant d'eux, parce qu'ils pèsent ce qu'ils pèsent, mais qui s'appelle le mouvement matricien, qui est très présent sur Internet, qui donnera même, je crois, une conférence à Paris la semaine prochaine, des gens que je considère presque comme une secte, mais qui sont vraiment complètement accrochés à cette idée du matriarcat original, qui se revendiquent d'Engels, de Baroffen, de la tribu Mozuo, qui est une tribu matriarcale en Chine. Et il y a tout d'un coup une mode qui revient là, à la fois du côté des féministes ultra, et à la fois même du côté d'une extrême droite très marginale. Ce sont les nouvelles catégories de l'underground intellectuel qui fleurent aujourd'hui.
Merci à vous, David Lépé. Je crois que vous êtes en pleine répétition de théâtre. Peut-être un mot sur votre pièce. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de jouer en ce moment?
Je suis en costume, là, en jabot. on commence jeudi une pièce de Goldoni, donc le dramaturge italien, qui s'appelle Le bourru bienfaisant, qui est donc une comédie de mœurs sur la situation d'une famille aristocratique à la fin de l'Ancien Régime qui a quelques problèmes d'argent. Voilà, c'est une troupe de théâtre théâtre amateur, mais si vous êtes du côté de la Suisse romande et de Neuchâtel, ça commence demain, ça commence jeudi et c'est jusqu'au 2 décembre.
Ah ben on mettra les liens sur le site de la Vieille Europe. Merci à vous et puis bonne répétition.
Alors, merci de m'avoir invité.
Alors, avant de passer à notre prochain invité, Pascal Essérique, le temps que la technique appelle, parce que là, nous allons avoir du poids avec Dr Gérard Zhuang, un scientifique. Vous avez eu des échos
un chirurgien,
ça reste un scientifique,
oui, je crois.
Vous avez eu des échos des féministes suite à votre dossier? Pour savoir si vous êtes fait insulter, menace de mort ou quoi que ce soit.
Non, pas menace de mort. Malgré tout, beaucoup de demandes de, c'est très curieux, de demandes de services de presse. Et je crois que le dossier a intéressé. Malgré tout, je trouve que, il y a du côté de ces mouvements féministes une volonté de ne pas discuter, de ne pas...
Discuter avec les hommes, peut-être
ou discuter avec vous.
Ou de discuter avec
vous. Vous êtes un homme.
Oui, voilà. Non, mais... oui, c'est vrai. Mais de ne pas se salir, de ne pas descendre dans l'arène. Et c'est un peu décevant. Malgré tout, par rapport à d'autres numéros, il y a une demande de il y a quand même une, on a observé une demande de d'information, une demande de numéros de la part de gens qui d'habitude ne nous lisent pas, voilà.
Arnaud Guillaugène a inventé.
Oui, juste pour rebondir sur ce que disait David Lépé et Pascal Essérique, je pensais justement à Claude Lévi-Strauss, qui est évidemment l'ethnologue qui a évité de tomber dans l'ethnocentrisme occidental sans pour autant se livrer à l'intégrisme de l'altérité et à voir les limites que l'on pouvait assigner à l'altérité, sachant toujours qu'une tribu d'Amazonie est peut-être moins sauvage au sens occidental que certaines tribus, si j'ose dire, des États-Unis, et que le barbare, ça n'est pas le négatif du civilisé, c'est celui qui croit en la barbarie.
Exactement.
Alors, nous allons avoir notre deuxième invité, Gérard Zhuang, vous m'entendez ?
Très bien.
Parfait. Bonsoir et merci de votre participation. Alors, vous êtes, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes chirurgien urologue de formation et vous êtes l'un des fondateurs de la Société française de sexologie clinique. Vous avez beaucoup écrit sur la sexualité et dont votre dernier livre « Touche pas à mon sexe, cette féminité qu'on assassine » aux éditions Gosevitch. Alors, je vais avoir une question un peu naïve. Nous venons de voir avec Philippe Christel les thèses des spécialistes du genre. L'homme et la femme ont-ils tellement évolué qu'ils pourraient choisir leur sexe après leur naissance pour devenir homme ou devenir femme, Gérard Zhuang?
Bon, écoutez, je sais pas pourquoi on met ce genre de débat sur le tapis. On est homme, on est femme. Écoutez, c'est pas parce que il y a certains tordus, sophistes, qui s'imaginent que le sexe est un choix, que le comportement sexuel est malléable et peut-être induit de l'extérieur, qu'on peut prendre au sérieux ce genre d'ânerie. Nous sommes absolument tributaires de la biologie, que ce soit sur le plan anatomophysiologique et sur le plan des comportements, en ce qui concerne la reproduction de l'espèce. Et le comportement sexuel est certainement un de ceux qui peuvent le moins être influencés de l'extérieur. Alors je pense que le débat est clos depuis très longtemps. Et ce qui est très drôle, c'est que celle qui a écrit « On n'est pas femme, on le devient », Simone de Beauvoir, qui est figure de proue d'un certain féminisme, et intellectualiste surtout, qui pensait pouvoir... avoir un rôle tout à fait contraire à celui qui était celui de la bonne bourgeoisie de son époque, s'est conduite avec l'amant qu'elle a vraiment beaucoup aimé, Nelson Algren, comme une épouse soumise, une femme qui obéissait à ses quatre volontés et qui a beaucoup souffert de sa rupture amoureuse. Alors il y a longtemps que pour moi, je ne perds plus mon temps avec ce genre d'âneries.
J'aurais envie d'aller quand même un peu plus loin. La communauté scientifique n'a-t-elle pas été un peu légère sur ces sujets, en ne les prenant pas au sérieux, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que maintenant dans la société, ces sujets sont présents et qu'on en voit les conséquences à travers le mariage homosexuel ou dans les livres, livres de science de nos enfants.
Ah oui, mais les livres de science sont faits par des enseignants qui, en général, sont complètement influencés par les thèses psychologiques, les reliquats du freudisme. Des gens, ça c'est malheureusement un des travers de l'intelligentsia française de renacler devant la biologie, devant les évidences les plus simples et qui peuvent s'imaginer qu'on peut tout manipuler de l'extérieur. C'est le vieil environnementalisme contre lequel Corinne Lorenz a bagarré toute sa vie, parce que c'est une grosse ânerie et qu'on croit toujours pouvoir mettre au monde le nouvel homme, la nouvelle femme. C'est le but de certains politiques, de certaines théories, mais ça ne marche jamais. Les hommes restent des hommes, les femmes restent des femmes.
Question de Pascal Essérique.
Alors, votre livre est une réhabilitation, vous dites, joyeuse de la femme au naturel. De quoi est-elle donc menacée?
Eh bien, écoutez, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que, moi qui suis chirurgien, j'ai été révulsé par l'apparition de cette pratique qui tend à passer pour de la chirurgie esthétique et qui consiste à remodeler le sexe des femmes moyennant de gras honoraires chirurgicaux en s'attaquant au sexe normal des femmes normales. Et ça, c'est vraiment absolument odieux et il est temps qu'on réagisse en disant aux femmes « Ne vous laissez pas faire, touche pas à mon sexe, et je suis très belle comme je suis. » Le malheur étant que beaucoup, trop de femmes n'ont pas de critères en ce qui concerne la normalité anatomique, morphologique de leurs propres organes génitaux externes. Et ce que j'ai commencé ma carrière d'écrivain scientifique en 1965 et je m'en prenais aux statues grecques qui ont initié cette, j'allais dire, forfaiture de l'art occidental de reproduire des corps féminins qui n'ont pas les organes génitaux normaux d'une femme normale qui a une fente vulvaire et dessus une pilosité sexuelle. Tout ça a été enlevé des statues antiques et a continué jusque dans notre temps, puisque même les plus belles statues de nos plus beaux sculpteurs ne reproduisent pas les organes génitaux externes féminins, alors qu'ils reproduisent ceux de l'homme. Alors voilà maintenant 45 ans que je râle en disant, écoutez, considérez que les organes génitaux externes des femmes pourraient être reproduits de façon réaliste, véridique, et que ça rendrait beaucoup service aux femmes, parce que en voyant cette censure de leurs organes normaux, elles peuvent s'imaginer que ce sont des organes innommables, pas montrables, obscènes, et dont il faudrait avoir honte, au contraire.
Alors, votre ouvrage est un pamphlet, on l'aura compris, le pamphlet d'un chirurgien, vous écrivez fier de l'être, et qui n'hésite pas d'ailleurs à s'indigner du comportement de certains de vos confrères qui pratiquent ce qu'on appelle le changement de sexe. Pourquoi est-ce frauduleux?
Mais parce qu'on ne change pas de sexe. On ne change pas de sexe, c'est une ânerie totale. Il y a, malheureusement, venant au monde, un certain nombre de petits malformés, ce sont des états intersexuels dont la plupart sont des hommes ratés, parce que l'acquisition de la morphologie génitale masculine est la plus longue au cours de la gestation, et c'est elle qui a le plus de chances d'avoir des ratés en cours de route. Mais en ce qui concerne les hommes et les femmes parfaitement constitués, auxquels on propose et quelquefois on impose ce qu'on appelle un changement de sexe, c'est une forfaiture totale, puisque le premier sexe, celui que nous avons dans les noyaux de toutes nos cellules, nous fait homme ou femme selon qu'on est XX ou qu'on est XY. Donc vous pouvez bricoler l'entrecuisse de malheureuses personnes d'un sexe ou de l'autre, vous pouvez leur vider le fond de leur petit bassin comme on fait aux intersexuelles féminines, vous pouvez leur couper tout ce qui dépasse aux intersexuels masculins, vous ne changerez jamais leur sexe initial, leur sexe biologique, leurs troubles viennent de ce qui se passe dans la tête au niveau de ce qu'on appelle le sexe psychique, qui est la notion que chaque homme, chaque femme a de sa propre sexuation, et ce sexe psychique est normal, mais dans une énorme majorité de cas, les transsexuels, bien heureusement, sont des gens qui sont extrêmement rares, et je pense qu'on ne rend pas tellement service avec ce bricolage absolument insensé qui détruit des organes normaux en laissant croire qu'on va les mettre, on va leur donner les organes de l'autre sexe. Écoutez, pendant un certain temps, il y avait un urologue lyonnais qui branchait sur les transsexuelles féminines des verges qui venaient d'officine de transsexualisme opéré d'Asie, et malheureusement ces pauvres verges de petits gens qui venaient de Hong Kong ou de Singapour ne tardaient pas à se nécroser. On n'arrivait pas à brancher une vraie verge au bas du ventre d'une femme, et ainsi de suite. Ce qu'on fait aux hommes n'est pas tellement plus glorieux, et il faut quand même bien se rendre compte que tous ces gens qui ont été opérés, bricolés, sont rarement en pleine possession du bonheur, de la félicité. On leur a interdit pour la plupart du temps la réalisation orgasmique normale, et quand ils sont contents, c'est quand ils se regardent dans la glace. Et c'est finalement ça, et c'est ce que les Freudiens appelleraient une satisfaction narcissique. Donc je reste persuadé qu'on guérira peut-être un jour les transsexuels quand on en saura un petit peu plus sur les instances neurophysiologiques de la base du cerveau. Du reste, il y a certains noyaux qu'on a pu incriminer à l'origine du sexe psychique sur lequel on pourra peut-être agir un jour.
Alors, peut-être un mot pour conclure. Certaines expériences qui aujourd'hui prouvent que le cerveau est sexué, on a découvert ça comment ?
Oh, écoutez, parce que il semble que certaines fonctions cognitives, certains schémas de réflexion ne se passent pas tout à fait exactement chez les hommes et chez les femmes. Mais je ne vois pas en quoi ça pourrait nous troubler. Pourquoi voulait-on uniformiser complètement les humains ? C'est une telle merveille qu'il y ait des hommes et qu'il y ait des femmes. Et ça fait quand même le bonheur de vivre, l'union de l'homme et de la femme. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé du mariage gay. Eh bien, écoutez, je profite de l'occasion pour dire
allez-y, que c'est allez-y.
Une absurdité totale. Le mariage est la ritualisation, l'officialisation d'un homme et d'une femme. À partir de là, les autres mariages sont complètement inconsistants. Et pourquoi pas? Et si on dit, oh là là, c'est un mariage d'amour, je m'appelle Robert et mon petit copain, il s'appelle Eustache, on s'aime, on va se marier. Alors, pourquoi pas non plus? Eh bien, je m'appelle Robert, et puis, dans le fond, ma fille qui s'appelle Yvonne, on s'aime, on va se marier. C'est un argument tout à fait odieux. Et le mariage gay est une ânerie, et contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas un progrès des mœurs, c'est une impasse, et je pense que ça n'a pas beaucoup d'avenir.
Merci à vous, Gérard Zwang. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Touche pas à mon sexe, cette féminité qu'on assassine, chez Jean-Claude Gozevitch. Et merci beaucoup de votre intervention.
Oui. Merci.
Alors, nous allons faire juste une dernière petite pause. Je crois qu'on a conclu, ou peut-être un mot de conclusion, Pascal et Céric. Qu'on a fait un panorama.
Oui, oui, la plus belle des conclusions, c'est Gérard Zwang qui vient de la donner. J'incite les lecteurs à se plonger dans ce dossier qui me semble être assez fourni. Sur cette idéologie du genre contre le sexe. Voilà.
Vous savez, il y avait un film qui était sorti il y a 25 ans qui s'intitulait « Vive les femmes », qui était un film qui était assez médiocre, avec Catherine Leprince. Je ne sais pas si aujourd'hui un tel film pourrait sortir sur les écrans et s'intituler ainsi, avec l'idéologie du genre.
Oui. Surtout que je crois que c'était à partir d'une bande dessinée de Rezer. Je pense que ça ne passerait
ça
plus,
ne passerait
du,
plus
tout.
Du tout.
Donc nous allons faire juste une pause et on va se retrouver d'ici quelques secondes, toujours sur Radio Courtoisie et aux Chroniques de la Vieille Europe. Alors, de retour sur Radio Courtoisie, dans les chroniques de la vieille Europe, une partie plus culturelle. On va laisser un peu le genre de côté. Avec notre invité, Arnaud Guillaume-Janin, que vous avez bien sûr entendu depuis le début de cette édition, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, Arnaud, vous venez de sortir aux éditions Xenia les visages du cinéma, 35 portraits non conformistes, un recueil de textes que vous aviez écrit principalement pour la revue Spectacle du Monde. Alors, trop souvent, ce genre de recueil, ils sont des sortes de millefeuilles journalistiques n'ayant aucune trame, et c'est surprenant car c'est pas votre cas. Comment avez-vous fait, sachant que vos papiers n'étaient pas prédestinés à être publiés? Vous avez fait un choix, vous les avez mis dans un certain ordre?
Alors, j'ai essayé de prendre d'abord à chaque fois un prétexte lié à l'actualité, que ce soit sortie d'un film, sortie d'un DVD, sortie d'un livre, date de naissance de la mort, date de la naissance de la personne, etc., pour essayer de conjuguer à la fois le prétexte à mes goûts personnels. Mes goûts personnels, ce sont deux ou trois types, si vous voulez, qui permettent de donner des critères directifs aux articles que j'ai publiés. C'est un, l'anticonformisme. Deux, des films que je qualifierais de populaires de qualité, qu'ils soient émanant d'une carrière ou d'une filmographie d'un acteur, d'une actrice ou d'un metteur en scène, et puis également des films qui s'inscriraient dans une tradition classique, c'est-à-dire qui combinerait à la fois les archétypes qu'on pouvait trouver dans le cinéma traditionnel français ou américain ou italien dans les années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, à mon avis, et en même temps une certaine part d'humanité. Or, maintenant, nous sommes dans un cinéma, me semble-t-il, qui est dominé par un cinéma américain où il y a des archétypes, mais trop d'archétypes et pas assez d'humanité, et dans des films français où il y a de l'humain, mais trop humain, et pas assez d'humain et d'archétype. Il faut un mélange, à mon avis, d'archétype et d'humain pour réhabiliter un cinéma populaire de qualité. C'est malheureusement ce que les Américains et les Français n'arrivent plus à faire, à mon sens, aujourd'hui, à part évidemment un certain nombre d'exceptions.
Alors, votre livre commence par un magnifique portrait du comédien Louis de Funès, et j'ai l'impression que nous avons là l'une des premières victimes du cinéma français. Pour ma part, c'est l'impression que ça me donne. Louis de Funès a eu très peu de rencontres avec des grands réalisateurs, part peut-être Gérard Houry. Est-ce que c'est pas déjà le début d'une fracture dans le cinéma français, où il y a des acteurs qui sont mis de côté par rapport à des réalisateurs qui, eux, ont leurs propres acteurs?
Curieusement, le cinéma comique français est très apprécié des Français. Il est très populaire, mais il ne trouve jamais dans les critiques des défenseurs, ou très rarement en tout cas, et les acteurs qui ont joué dans un certain nombre de films, je pense à Darry Cole, Louis de Funès, que vous évoquiez, que j'aime beaucoup, Pierre Richard, etc., n'ont pas eu non plus des metteurs en scène souvent qui étaient à leur hauteur. Ce qui fait que dans le cas de Funès, par exemple, il a fait 4 ou 5 films avec Gérard Houry, les 4 qu'on connaît évidemment, Le Corneau, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob, plus Le Crime ne paie pas, qui était un petit film qu'il avait dans laquelle il avait joué avant C4. Et puis après, on retrouve d'autres metteurs en scène qui ont pu tourner avec De Funès, mais qui sont pas des pontes.
Oh, il y a quand même Robert Derry. Il y a quand même Robert Derry. Elle est belle bacante.
Et elle est belle bacante. Ah, oui. Enfin, mais c'est pas des De Funès ou De Funès en premier rôle.
Exactement. Mais quand même, quelle présence.
Il faisait partie de la troupe.
Oui, mais il est vraiment très bon. Elle est belle bacante, c'est un des.
Même un film de Gilles Grangier que j'aime beaucoup, Le Gentleman d'Epsom avec Jean Gabin, dialogué par Audiard, où De Funès a un deuxième rôle aux côtés de Gabin, mais où il tient la dragée haute. Hein.
Alors, c'est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment, à part cet exemple-là, de rencontre Audiard-De Funès.
Alors, il y a eu dans le film de Georges Lautner, qui s'intitule Un grand seigneur, un sketch. Où l'on retrouve Mireille Darc, Bernadette Lafont, Jean Richard et Louis de Funès dans le premier rôle.
Dans le rôle du client.
Et effectivement, et dans un deuxième film de Lautner qui lui est antérieur, c'est Des pissenlits par la racine, avec Michel Serrault, Darry Cole, Francis Blanche et Mireille Darc, bien entendu, et Maurice Birot, et également dialogué par Michel Audiard.
Vous voyez, vous avez une meilleure mémoire que moi. Alors, il y a bien sûr des portraits d'acteurs qui ont été souvent reconnus sur le tard. Je pense bien sûr à Michel Bouquet, Maurice René, bien sûr, Jean-Pierre Marielle ou Bruno Kremer, entre autres. Mais ils ont eu quand même dans leur carrière de magnifiques seconds rôles. J'ai l'impression que ces seconds rôles n'existent plus.
Ouais, oui, ça c'est tout à fait vrai. Les seconds rôles du cinéma français ont quasiment disparu. Et même les troisième et quatrième rôles. Ceux qu'on aimait voir, les Michel Lonsdale, les Daniel Hivernel. Il y avait des tas de deuxièmes rôles où on prenait
Noël Roquefort.
Noël Roquefort encore plus anciennement, qui était extraordinaire. Je ne parle pas même de Jules Berry, qui a eu des premiers et des deuxièmes rôles. Effectivement, le Marielle, qui a aussi beaucoup oscillé, qui a fait des premiers et des deuxièmes rôles. Carmet, qui a fait des premiers et des deuxièmes rôles. Enfin, on pourrait lister toute une série d'acteurs français qui ont eu des premiers, deuxièmes, troisièmes rôles. Et aujourd'hui, malheureusement, ces deuxièmes, troisièmes rôles n'existent plus parce que déjà, c'est difficile pour un premier rôle de rester durablement installé sur la scène française et de faire des films les uns après les autres qui marchent. Alors pour qu'en plus, ils puissent se permettre de faire des deuxièmes et des troisièmes rôles de temps en temps pour refaire ensuite un premier rôle derrière, c'est encore plus marginal.
Alors, je citais par exemple un acteur comme Bruno Kremer, qui est pourtant a été un acteur au départ qui a fait de très bons rôles, n'a pas eu la carrière. Comment vous l'expliquez ?
Il a été, je pense, très vite marqué par les films de Schoendoerffer. Son sublime rôle dans la 317e section, évidemment. Après, son film Objectif 500 millions, mais qui est moins connu, qui fait partie des films de Schoendoerffer qu'il faut mentionner parce qu'il est oublié et méconnu.
Il est surtout très bon.
Puis alors en plus très politiquement anticonformiste parce que Bruno Kremer dans le film joue le rôle d'un ancien de l'OS et qui le Schoendoerffer n'est pas malveillant, c'est moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme, avec le personnage tragique incarné
Kremer. C'est-à-dire que
sombre, voilà, c'est sombre. Pas un personnage lumineux comme Jacques Perrin dans Le Crabe Tambour
ou dans
la 317e section même. Hein.
Bien sûr.
Oui, parce que ce qui est surprenant, à part quelques exceptions, ce sont quand même des grands acteurs qui ont été reconnus, on reconnaît leur talent, mais qui n'ont pas été des grandes stars dans vos portraits.
Pas tous, évidemment. Maurice René a tout seigneur, tout honneur.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que Maurice René a été reconnu à sa juste valeur ? Moi, je pense que non.
Non.
On va citer Le Feu Follet et puis Ascenseur pour l'échafaud. Et puis après, on va prendre quelques films qu'il a eu comme deuxième rôle. Je pense à La Piscine ou au Centurion, qui est quand même pas un film extraordinaire.
Il y a eu souvent, ce qui est assez drôle, c'est qu'il a beaucoup tourné avec Alain Delon. Et il y avait à chaque fois une rivalité dans ses films.
Et il meurt à chaque fois.
Et il meurt à chaque fois, oui.
Et tué par Delon, notamment dans Plein Soleil,
La Piscine.
Et dans La Piscine. Et justement, même si vous prenez des films comme Le Grand Saut d'Edouard Luntz, où René a le premier rôle... C'est un film qui n'a pas marché, qui n'est pas connu. Tout le monde a oublié le film. Si vous prenez La Femme Infidèle de Claude Chabrol, où il a un deuxième rôle excellent côté de Michel Bouquet, Stéphane Audran, qui se souvient de la prestation de Maurice René dans le film de Chabrol, La Femme Infidèle, qui pourtant reste un des classiques de Chabrol. Donc malheureusement, Maurice René, certains risquent de s'en souvenir, et encore parce qu'il a un rôle assez différent, dans le film de Bob Swaim au début des années 80, La Balance, où il joue le rôle d'un mafieux, Roger Massina, avec une moustache où on ne le reconnaît guère et qui est très différent de l'anti-héros, mais héroïque quand même, interprété à l'écran dans le film de Louis Malle, Le Feu Follet, que nous aimons beaucoup.
Alors, vous parlez de La Balance, ça fait à partir de ces années-là, vous considérez que le cinéma français est en train de mourir, quoi. À part quelques exceptions comme La Balance.
Alors, sur le plan, en tout cas, de l'anticonformisme idéologique et politique, il est certain que trois films comme Ciao Pantin de Claude Berry, La Balance de Bob Swaim ou Le Marginal de Jacques Deray ne pourraient pas sortir vraisemblablement aujourd'hui, tellement ils sont anarcho-populistes ou réactionnaires, et où sur les domaines de l'immigration, de la sécurité, des valeurs entre guillemets conservatrices ou traditionnelles, les metteurs en scène restent fidèles aux archétypes de la civilisation française. On pourra évidemment trouver d'autres films. L627, par exemple, de Bertrand Tavernier, après 85, fait partie des polars anticonformistes, de bonne facture, et qui, en plus, est un bon film.
Ça va être l'un des premiers, genres qui va disparaître, le polar, dans le cinéma français. Il y a un moment, il va y avoir une traversée du désert. On commence de temps en temps à en voir un, mais...
Parce que le cinéma étant à l'image de la société, il faut se souvenir qu'au milieu des années 80, ce sont les années potes, les années fric, les années pub. C'est les années où SOS Racisme, la revue Globe, la télé de Berlusconi émergent. Et on retrouve malheureusement toute cette décadence civilisationnelle au cinéma. Et on retrouve... dans certains films, un peu de respiration, un peu de souffle épique et français qui, aujourd'hui, peut nous faire plaisir, mais qui reste quand même la portion congrue par rapport à ce que fut le cinéma français, le cinéma classique français. Par exemple, il y a aujourd'hui un metteur en scène qui est très décrié parmi la cinéphilie élitiste française parce qu'on le considère académique, on le considère laborieux, on le considère lourd, il est français trop français, presque trop pétainiste, etc. C'est Jean Becker.
Alors lui, chaque film, c'est une destruction.
Alors, soit il est détruit par la critique et à ce moment-là, il n'y a personne qui va le voir. C'est-à-dire que le dernier film qu'il a sorti, Bienvenue parmi nous avec Patrick Chenet, qui est sorti au printemps dernier, a dû faire 70 000 entrées. Ça a été un échec retentissant, alors que c'est un film très sympathique et très frais et très, très sauvage. Et c'est un film français, très français. Ou alors, il y a 1 million de gens qui vont voir Les Enfants du Marais ou Effroyable Jardin, qui sont de très bons films, très français là aussi, mais alors qu'ils sont désingués par la critique et qui sont considérés comme des films conservateurs, pétainistes et autres.
J'ai remarqué, vous faites, ou alors je me trompe, mais vous ne faites pas partie de ces gens qui considèrent que la nouvelle vague a été un clash dans le cinéma français.
Non.
Parce que il y a quand même des très beaux portraits de Chabrol.
Alors est-ce que et de Romère.
Et de Romère. Oui, parce que Chabrol.
J'aurais pu faire Truffaut aussi. Hein.
Est-ce que Chabrol est vraiment la nouvelle vague?
On peut dire que sur Les Cousins ou Les Bonnes Femmes, il appartient à la nouvelle vague. Après, il revient à un cinéma plus classique, mais c'est pareil pour François Truffaut. François Truffaut a critiqué Audiard, Grangier, La Patellière, Verneuil comme des cinéastes vulgaire. Que disait-il de Jean Delannoy, de Claude Autant, Lara? Il les égratignait, le cinéma de papa vulgaire, etc. À la fin de sa vie, il est revenu sur ça en s'excusant même de ce qu'il avait écrit sur Michel Audiard et sur les cinéastes de papa. Et lui-même a fait des films extrêmement classiques. Quand vous regardez très rapidement le film avec Aznavour et
Tirez pas sur le pianiste.
Et évidemment, je ne parle pas de L'homme qui aimait les femmes, etc. Ce sont des films quand même de facture assez classique.
Pascal Essérick, une question?
Oui, la question que j'avais envie de poser, c'est sur le cinéma contemporain, c'est-à-dire des auteurs comme... moi, par exemple, Les Patriotes d'Éric Rochant me semble être un très, 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 très grand film. Malheureusement, Éric Rochant n'a pas tenu toutes les promesses de ce film.
Ni même avant, d'ailleurs. d'ailleurs, parce qu'il avait, oui, il avait même fait un film que j'avais, que j'avais détesté, qui avait été césarisé, qui avait reçu 5 Césars à l'époque, et qui avait fait plus de 3 millions d'entrées avec Hippolyte Girardot, qui s'appelle Un monde sans pitié, que j'avais vraiment douloureux et débectant. Et il a fait ensuite, notamment dans les années 90, Les Patriotes, qui est un excellent polar avec Yvan Attal, et qu'il faut voir.
Et par exemple,
pour l'anecdote, c'est ce qui lui a permis son premier succès d'avoir l'un des plus gros budgets d'un film français à l'époque.
Ouais.
Et faut savoir que c'est un film quand même sur les services secrets israéliens. Ouais. Ce film ne sortira même pas en Israël. Hein.
Ah oui.
Il l'a dit lui-même. Le distributeur après Cannes n'en a pas voulu. Donc
Alors que pourtant très honnêtement, alors on peut pas dire que ça soit un film vraiment partisan, vraiment.
Non,
franchement, même en y mettant toutes les nuances que l'on y veut, ça reste un film. Mais donc extrêmement neutre, peut-être trop neutre.
C'est quand même un film Balance de Bob Swaim. Enfin, c'est un film.
Oui, mais est-ce qu'on peut le considérer comme anticonformiste, étant donné qu'il est relativement neutre?
Quand même, dans le cinéma.
C'est un bon film, bien sûr.
Mais dans le cinéma français, s'attaquer à ce sujet, s'attaquer à un thème pareil, je trouve quand même que il fallait du courage, et il en a montré, et je pense que ça l'a épuisé d'ailleurs pour tout le reste de sa carrière.
Alors il y a un autre film qu'on peut, parce qu'effectivement on peut citer, j'ai cité Becker, on peut citer d'autres films.
Vous arrêtez pas aux années 80.
Non mais heureusement, ce sont les tendances dominantes sociologiques qui permettent de voir les grandes identités historiques, filmographique, cinéphilique. Bon, mais un film, par exemple, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous l'avez vu, de François Dupeyron, qui s'appelle C'est quoi la vie, avec Jacques Dufilho et Jean-Pierre Darroussin, qui est un film que je qualifierais d'écolo communautariste, très très beau, pagano-catholique, très très beau, avec l'hymne au soleil. Enfin, c'est tout un film qui pourrait être presque parrainé par Saint François d'Assise. C'est un très très beau film qui prône les valeurs terriennes et qui est très éloigné, évidemment, du cinéma cosmopolite et bobo actuel. Mmh, mmh. Mais on retrouve, évidemment, des films, heureusement, en France et en Allemagne et en Italie et aux États-Unis, qui ne sont pas tous alignés sur la vulgate dominante. Mais malheureusement, ça n'est pas le plus gros lot.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, j'ai l'impression que y a quand même aussi une bonne partie sur le cinéma américain, mais que vos goûts en cinéma américain sont de films peut-être plus récent que les films français eux-mêmes. Est-ce que vous avez pas l'impression que le cinéma américain a largement dépassé le cinéma français et qu'on a du mal aujourd'hui à se trouver fier de notre cinéma vis-à-vis de parfois d'une certaine très bonne qualité des films américains?
Non, prenons l'exemple de Clint Eastwood. Clint Eastwood, depuis son premier film, Un frisson dans la nuit, fin des années 60, qui est un petit chef-d'œuvre, le rôle d'un disc jockey, harcelé par une femme amoureuse de lui, très grand film. Il enchaîne sur plusieurs westerns, très inspiré par le western italien, puisqu'il a tourné avec Sergio Leone. La trilogie Pour une poignée de dollars et Pour quelques dollars de plus, c'est La bon, la brute et le truand. Il fait L'homme des hautes plaines et Joyce et Wells sort la loi. Il n'y a vraiment rien à acheter. Tout est bon. Là, vraiment, c'est le sans faute. Alors, jusqu'aux années 90, à mon avis, il fait des films un peu inégaux. Il se rattrape, à mon avis, il n'y a pas longtemps avec Gran Torino. Je trouve qu'il vraiment fait une très, très bonne prestation. Alors là aussi, les valeurs, si j'ose dire, de droite sont à l'honneur.
C'est presque un testament de son œuvre. Hein.
Ouais, c'est un film même assez christique à certains égards, puisqu'à la fin, il fait son signe de croix, il tire pour qu'on tire sur lui, pour mourir, pour se sacrifier pour la communauté et pour qu'on s'empare des voyous qui embêtent cette communauté. Clint Eastwood, c'est l'exemple parfait d'un quasiment sans faute sur toute une carrière de cinéaste et d'acteur. Mais je serais bien en peine, même sur Brian De Palma, que j'ai traité dans le livre, qui quand même est relativement inégal, je pourrais pas trouver un exemple comparable à Clint Eastwood sur les 45 dernières années.
Alors c'est marrant parce que vous parlez de Brian De Palma, et vous avez quand même des réalisateurs américains qui ont été des réalisateurs qui, dans leur premier film en tout cas, ont été reconnus beaucoup plus en Europe hein, oui. qu'aux États-Unis. Est-ce que vous avez presque l'impression que c'est des cinéastes européens?
Alors c'est assez amusant parce que j'ai été interrogé par nos amis qui collaborent au site de Robert Ménard et Dominique Jamais, l'anti-Mediapart de droite qui s'appelle Boulevard Voltaire, et Nicolas Gauthier qui m'a interrogé et qui me posait justement cette question, à savoir est-ce que finalement il n'y a pas un tropisme européen dans vos goûts? Est-ce que le cinéma américain que vous aimez, est-ce que ce n'est pas celui qui se rapprocherait le plus de la tradition européenne? C'est pas faux, c'est vrai que je suis pas passionné par la mythologie américaine. En même temps, paradoxalement, vous voyez, un des metteurs en scène que je préfère, c'est Jean-Pierre Melville, qui lui-même a été très influencé par le cinéma américain, mais qui, comme le disait Jean Tullard, a assimilé le cinéma américain tout en restant typiquement français. Donc là, on trouve un bon composé de francité, d'européanité, d'américanité. Quand c'est Jean-Pierre Melville qui est aux commandes, on peut être à peu près sûr qu'on a affaire à un chef-d'œuvre.
Alors, et bien sûr, on a toujours quelques réserves quand on voit vos portraits.
C'est normal.
C'est peut-être chez les femmes qu'il y a certaines réserves.
Parce que c'est là où je suis plus subjectif.
Alors, Charlotte Rampling, on comprend Sophia Loren, on comprend bien sûr. Et Z comme Zeta-Jones. Et Sharon Stone.
On comprend beaucoup.
Mais bon,
on comprend davantage.
Sharon Stone.
Mais
qu'est-ce que vient faire?
Là où j'ai un mystère, là, il y a. Mais je pense que je dois pas être le
Sharon
premier.
Stone, hein.
À vous
moi, j'en ai
la question,
un sur
c'est
Sharon.
Sylvie Vartan.
Ah oui.
Pourquoi Sylvie Vartan?
Vous n'êtes pas le premier, effectivement, à me charrier sur Sylvie Vartan. Et vous avez raison de le faire. C'est parce que je suis tombé amoureux de Sylvie Vartan dans le film de Jean-Claude Brissot, L'Ange Noir. En 1993, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et j'avoue que rien que pour ça, comme quand j'étais petit, j'aimais bien la chanteuse des Yéyé, Sylvie Vartan, qui apparaît effectivement comme une chanteuse mineure, et que les films qu'elle avait fait par ailleurs n'étaient pas des grands films, c'est moins qu'on puisse dire, j'ai fait un hymne à Sylvie Vartan en raison de son rôle dans L'Ange Noir de Jean-Claude Brissot, et j'aimerais tellement qu'elle retourne un film avec lui ou avec un autre metteur en scène où elle pourrait jouer le rôle d'une garce vénéneuse qu'elle sait si bien jouer dans ce genre de film.
Non, là où on peut plus,
non, mais allez-y,
là où on peut plus défendre, c'est avec Sharon Stone. Non, vraiment.
Bon, alors Sharon Stone, vous avez bien compris.
Oui.
D'abord, elle est superbe. Elle est fabuleusement belle. Elle n'a fait que deux bons films à mon sens, et pourtant elle est toujours aussi connue aujourd'hui. C'est Basic Instinct et Casino. Tout le reste de sa carrière est affligeante. Encore aujourd'hui, Sharon Stone reste connue. C'est quand même, il y a un mystère, Sharon Stone. Comment Sharon Stone, après 25 ans après avoir tourné Basic Instinct et 20 ans après avoir tourné Casino, reste-t-elle encore une icône, une star?
Ouais. Arnaud.
Oui.
Paris Hilton aussi est connue.
C'est vrai. Mais elle n'a pas tourné de film.
Mais vous en
avez. Pas les mêmes, si non, vous voyez ce que je veux dire.
Là, je pense qu'on aurait eu Paris Hilton dans le bouquin. Je ne pense pas qu'on aurait reçu Arnaud. Pour terminer avec vous, Arnaud Guillaume-Janin, pour votre livre Les visages du cinéma, vous terminez, et je ne sais pas si ça a été volontaire ou simplement pour une raison de chronologie, vous terminez avec deux artistes qui sont Benoît Poulvorde et Fabrice Lucchini. Et qui, pour ma part, on en discutait un peu hors antenne, ont un peu raté leur carrière par un nombre de films pas forcément très très bons. On peut dire que Fabrice Lucchini a été quand même sauvé quelque part par le théâtre et par ses fabuleux textes qu'il pouvait lire au théâtre. Benoît Poulvorde, ça a été un acteur prometteur avec un film culte pour beaucoup.
Vous parlez des randonneurs?
Non, je parle pas des randonneurs, je parle de l'un de ses premiers films belges.
Ah,
C'est arrivé près de chez vous. Et par la suite, même si ce sont des acteurs populaires, il n'y a pas de grands films derrière.
Je suis un peu moins sévère avec vous sur Luchini parce que je pense quand même toujours à La Discrète, évidemment. Et puis il y a quelques films intimistes qui ne sont pas glauques, qui sont des films frais. Les films de Romère, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aux films de Romère, que ce soit d'ailleurs Le Genou de Claire ou L'Arbre, le Maire et la Médiathèque, Perceval le Gallois et bien d'autres. Poulvorde, alors là, effectivement, il y a un problème Poulvorde. Poulvorde est un acteur génial. Et à mon avis, le mot n'est pas trop fort. C'est un des grands comiques français-belges qui pourrait faire des films prodigieusement réussis et pourrait presque remplacer Louis de Funès dans une autre mesure, si j'ose dire. Et il n'a pas les metteurs en scène qui lui conviennent. Et il fait des films qui sont, à mon avis, à moitié réussis, sans savoir exactement ce qui tourne. Je voudrais juste faire une toute petite,
une petite minute,
parenthèse pour dire que finalement il y a une parenté entre la première partie de votre émission et ce qu'on est en train de dire actuellement, parce que finalement ce qui caractérise le cinéma contemporain, c'est son indistinction, justement, c'est qu'il n'est pas distingué, c'est qu'il n'est plus distinct, il n'est plus différencié, c'est un cinéma indistinct, c'est un cinéma où on ne renvoie plus à des identités fortes, où les personnages sont des personnages forts, où on ne peut plus même transgresser la force par la faiblesse parce que la force n'existe plus. On ne peut pas transgresser l'archétype par l'incarnation existentielle parce que l'archétype est devenu un archétype de comptoir. Donc voilà, je crois que ce qu'on pourrait appeler de nos voeux, c'est un cinéma de facture classique qui intègre la fantaisie, le talent, l'anticonformisme et qui en même temps soit un cinéma distinct et distingué, ce qui nous changerait du nivellement indifférencié du cinéma actuel.
Merci à vous, Arnaud Guillaume-Jeannin. On est super en retard, donc je rappelle le titre de votre livre, Les visages du cinéma, 35 portraits non conformistes, et le numéro d'élément, numéro 145, que vous trouvez en kiosque. On se retrouve dans 4 semaines pour parler de services secrets. Pour une fois, je peux l'annoncer, notre prochaine émission. En tout cas, bonne soirée, bonne fin de soirée sur Radio Courtoisie.